enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, on va lire à propos de la foi et du fait de ne pas perdre des yeux qui est Dieu, ce qu'est la parole de Dieu, ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire quand on va se retrouver devant des circonstances et des situations. Et ce matin, pour appuyer ça, je voulais qu'on lise ensemble dans 1 Roi, au chapitre 19. Je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé avant, parce que on doit parler de ce qui s'est passé avant, c'est un contexte, et comment ça a amené à certaines choses dans la vie d'Élie. Vous voyez, Élie était un prophète de Dieu. Il a été choisi par Dieu, appelé par Dieu dans un moment vraiment difficile, puisque c'était l'époque où c'était le roi Akab qui régnait sur Israël, et Akab, ce n'était pas un bon roi, ce n'était pas un roi qui était attaché à Dieu, qui marchait avec Dieu de tout son cœur. Il avait pris une épouse qui n'était même pas sauvée, et cette femme était tout le temps en train de l'influencer négativement, de l'éloigner de Dieu, de le porter à pécher, de faire pécher le peuple. Et c'est pour cette raison que Dieu a dû envoyer un jugement sur Israël, et ce jugement, eh bien, ça a été 3 années et demie sans pluie. Pendant 3 ans et demie, il n'a pas plu une goutte d'eau sur le tout Israël. Et en fait, c'était les conséquences du péché. Quand on parle de jugement, quand on parle des jugements de Dieu, c'est un petit peu comme rendre un jugement d'après un tribunal. Vous voyez, il y a des lois qui existent, et ça existe dans le naturel, il y a des lois qui existent, et quand les lois sont transgressées, il y a un jugement qui peut être rendu. C'est normal, si la personne qui a transgressé la loi, elle se fait prendre, elle se fait arrêter, on va la placer devant les faits, des choses qui sont reconnues, et ensuite il y a un jugement qui est donné, la personne est reconnue coupable, n'est-ce pas? Elle n'est pas rendue coupable, elle est reconnue coupable. Et quand on parle des jugements de Dieu, eh bien, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses, en tout cas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil, sauf que le jugement, notre jugement, il est tombé sur Jésus. Amen. Et ça fait une différence. Nous ne sommes plus sous aucun jugement, nous ne sommes plus sous aucune condamnation, parce que nous sommes en Christ. Mais nous devons aussi apprendre à marcher dans la justice de Jésus. Parce que savoir que nous sommes justes en Jésus-Christ, ça ne donne pas la permission, le droit de vivre dans le péché et de mal nous comporter. Le jugement qui est tombé sur Jésus, c'est vraiment une grâce de Dieu pour notre vie, et ça nous donne une assurance de pouvoir nous approcher de Dieu avec confiance, sachant que nos péchés ont été effacés. Mais Dieu est un juge. D'ailleurs, c'est écrit dans l'épître de Jacques. On peut, avant de lire donc dans Roi, on va lire ensemble dans Jacques. Je vais vous montrer ce verset. Jacques chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Qui peut sauver et perdre. Ça ne veut pas dire que Dieu veut perdre, mais quand on ne rentre pas dans le salut, on est perdu. Amen. C'est ça que veut dire ce verset. Donc un seul est législateur et juge, et c'est Dieu. Dieu est un juge. Et le peuple d'Israël, à cause de son péché, de son endurcissement dans le péché, parce que Dieu est un juge, mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Quand il s'agissait de juger le péché du peuple d'Israël, le jugement ne tombait pas dans la minute qui suivait. Le peuple avait toujours un temps pour changer, un temps pour se repentir. Maintes et maintes fois, Dieu envoyait des prophètes pour prévenir le peuple en leur disant « Vous ne marchez pas bien, vous ne marchez pas selon Dieu, vous n'obéissez pas à la loi, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des problèmes, vous allez être jugé, ce que vous faites va être jugé. » Dieu réserve son jugement, il n'envoie pas son jugement dans l'instant qui suit. Et Dieu envoyait des prophètes pour parler au peuple d'Israël. J'aimerais quand même faire une parenthèse avant d'aller plus loin, c'est que aujourd'hui, Dieu n'envoie pas des prophètes pour envoyer des jugements. Amen. Parce que nous ne sommes pas dans l'alliance de l'Ancien Testament. Si quelqu'un aujourd'hui vient et se dit prophète et commence à envoyer des jugements sur les nations, envoyer des jugements sur des villes, envoyer des jugements sur des gens, envoyer des jugements sur les chrétiens, ce n'est pas selon Dieu. Ce n'est pas selon Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce, dans le temps où nous avons un accès au pardon et au salut. Et ça, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des gens qui sont prophètes, mais ce ministère-là s'exerce d'une façon qui est différente. Les prophètes, ce sont d'abord des serviteurs de Dieu qui enseignent, qui prêchent la parole de Dieu et qui exercent un ministère prophétique qui annonce les choses à venir, qui révèle aussi des choses de la part du Seigneur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionne ce ministère. Donc, pour en revenir à Élie, Élie était un prophète qui a été appelé par Dieu dans ce temps-là. Et ce n'était pas un temps facile. Vous savez, quand on regarde les histoires de la Bible, de l'Ancien Testament, on peut se dire, oh, moi j'aurais bien voulu être Moïse, ou moi j'aurais bien voulu être Élie, ou moi j'aurais bien voulu être tel ou tel. Mais sachez que ces gens-là n'avaient pas une vie facile. Parce que la parole de Dieu n'était pas souvent accueillie avec des cœurs sincères, avec des cœurs repentants et avec un désir de la parole de Dieu. Bien souvent, les gens ont rejeté la parole de Dieu, se sont rebellés contre la parole de Dieu. Et non seulement ils se sont rebellés contre la parole de Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont persécuté les gens qui donnaient la parole de la part du Seigneur. Donc, sur la parole que Élie a reçue, eh bien, la pluie s'est arrêtée de tomber pendant trois ans et demi. Et le prophète Élie s'est caché et il a vécu donc en retrait parce que Akab en voulait à sa vie. Parce que ce qui s'est passé et ce qui se passe, ce qui s'est souvent passé, c'est que quand un prophète recevait une telle parole et qu'il la donnait de la part du Seigneur, comme cette parole n'était pas reçue, le prophète était persécuté à cause de la parole, et même parfois, plusieurs fois, on a voulu en tuer plusieurs. Et il y a même des prophètes qui ont été mis à mort parce qu'ils étaient en train de servir le Seigneur. En fait, au travers de tout cela, Dieu avait un plan, et ce plan, c'était de libérer le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Parce que la raison principale de ce jugement, c'est qu'ils allaient vers les Baals et les Astartés. Les Baals, c'était les dieux de la pluie. Astartés, c'était la déesse de la fécondité. Donc, ils priaient ces dieux-là. Il y avait tout un mélange. Et quand on parle de prier des autres dieux, c'est quelque chose de grave parce que les autres dieux n'existent pas. En réalité, ils s'adressent à des démons. Et c'est ça qui était extrêmement grave. Et il y avait beaucoup de prêtres et de prophètes de Baal et d'Astartés qui était au service de la femme donc du roi Akab qui s'appelait Jézabel. Et en fait, le plan de Dieu au travers de tout ce qui depuis le début de la sécheresse jusqu'à la fin de la sécheresse, c'était de ramener le peuple d'Israël à lui, c'était de ramener le cœur des pères, le cœur du peuple d'Israël vers leur Dieu. C'était ça le but. Et en fait, quand il y a des jugements de Dieu, ce n'est jamais pour amener la destruction en tant que telle, même si parfois il y a de la destruction qui était là, mais c'était pour ramener le cœur du peuple d'Israël vers Dieu. Donc, il va y avoir ce passage, je vous conseille de lire là dans cette journée, un roi 17, 18 et 19, ça nous raconte toute cette histoire. Là, je suis en train de la résumer, mais vous pouvez lire à la maison. Ça va continuer de vous parler. Et en fait, à un moment donné, eh bien, Élie va se présenter devant Akab pour que il puisse y avoir un test. Et ce test va démontrer que Dieu est Dieu et que les autres ne sont pas des dieux. Vous connaissez l'histoire. On va rassembler les prophètes de Baal, d'Astarté, et Élie va se tenir de son côté, et ils vont bâtir un autel, mettre un sacrifice sur chacun des autels, et celui qui va invoquer le feu du ciel et le feu du ciel qui va tomber sur ce sacrifice-là, eh bien, ça sera la preuve que c'est Dieu qui utilise ces personnes. Et les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, donc, ils ont fait leur autel et ils sont restés très très longtemps à essayer d'invoquer leur Dieu et rien ne s'est passé. Par contre, quand Élie va construire l'autel et il va le refaire selon les rites que Dieu avait donné, il va prendre des pierres, il va creuser un fossé tout autour, il va arranger le bois, mettre le taureau par morceaux sur l'autel, et ensuite il va y faire verser de l'eau, et pas un petit peu d'eau, une grande quantité d'eau, tellement grande d'ailleurs que le fossé va être rempli d'eau et le bois va être trempé d'eau. Et vous savez comme moi que du bois qui est mouillé, ça ne brûle pas facilement, n'est-ce pas? Et ensuite, il va invoquer le nom de Dieu. Et quand le nom de Dieu va être invoqué, eh bien, le feu du ciel va répondre, le feu du ciel va descendre et il va descendre rapidement. Et en fait, au travers de ce miracle, c'était pas un miracle pour impressionner simplement, mais au travers de ce miracle, eh bien, c'est comme ça que le Seigneur a ramené le cœur de son peuple vers lui. Et bien sûr, tous les prophètes, après les prophètes de Baal et d'Astarté, ont été exterminés, ils ont été égorgés, ils devaient être exterminés, sinon après 2 semaines, le peuple d'Israël serait retombé encore dans ces péchés-là. Donc voilà comment les choses se sont produites. Ensuite, Élie est monté sur la montagne, il a invoqué le Seigneur avec foi et la pluie est revenue, et une pluie qui est revenue qui était très violente. Donc voyez la relation que Élie a eue avec Dieu au travers de ces 3 années et demie. D'abord, il a parlé de la part de Dieu. Il y a ce miracle qui s'est produit. Le ciel s'est fermé, qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. C'est un miracle. C'est pas un miracle qui était productif dans le sens où ça n'a pas béni les gens sur le moment, mais ça les a bénis après parce que ça les a amenés à réfléchir et à revenir au Seigneur, et ça a permis justement que ce soit manifesté le feu du ciel qui descend sur le sacrifice. Donc ça, c'était un premier miracle qui a été montré au peuple d'Israël. Pendant 3 ans et demi, Élie a bénéficié des soins de la providence divine parce qu'il a été nourri d'une façon miraculeuse. Dans un premier temps, c'était auprès d'un torrent où les corbeaux venait lui apporter de la nourriture. Puis dans un deuxième temps, c'était auprès de cette femme veuve à Sarepta où il y a eu ce miracle de provision divine avec la farine qui ne diminuait pas dans le pot et avec l'huile qui ne diminuait pas dans la cruche. Et à la suite de ça, il y a eu cet autre miracle, le feu du ciel qui descend sur le sacrifice. Je pense que aucun d'entre nous, personne n'a vu ce genre de choses. On n'a jamais vu des choses aussi incroyables et aussi extraordinaires. Et en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est que, et après, bien sûr, le miracle de la pluie qui revient, ce qui est vraiment étonnant, c'est que, à un moment donné, Élie va, comme on dit en français, il va perdre les pédales. Vous savez, quelqu'un qui fait du vélo, il a les pieds sur les pédales, et parce qu'il a les pieds sur les pédales, il contrôle la vitesse du vélo, et il peut ralentir ou accélérer, et il est en contrôle. Et quelque part, Élie va perdre les pédales du vélo de sa vie. Parce que ça va aller trop vite pour lui, il va perdre les pédales, et il va perdre le contrôle, et il va vraiment flancher. Et j'aimerais qu'on parle de ça, c'est vraiment de ça que j'ai à cœur de parler ce matin. On va lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 3. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Quand on lit ça, on voit que c'est une menace. C'est une menace. Mais c'est une menace diabolique et c'est une menace en l'air. C'est pas une menace sérieuse. Parce que quand quelqu'un a l'intention d'aller tuer quelqu'un d'autre, il ne lui envoie pas des messagers pour lui dire « Je vais te tuer, je vais te faire tuer. » Et en plus, préciser la date. « Demain, tu seras mort. » demain tu seras mort. C'était une menace qui était en l'air. Cette femme était en colère et bien sûr elle était influencée par le diable, par des mauvais esprits, et c'est de sa colère qu'elle a parlé, mais elle n'était pas en mesure d'exécuter cette menace. Amen. Et ça, vraiment, je veux préciser ça. Elle n'était pas capable d'exécuter cette menace. Elle ne pouvait pas faire mourir Élie. Elle n'en avait pas la capacité ni le pouvoir. Élie était sous la protection de Dieu. Élie était le prophète de Dieu qui faisait la volonté de Dieu, et Dieu était absolument capable de le garder, de le protéger de la main de Jézabel tout le temps qu'il avait prévu de le faire. Amen. Mais, voyez, les hommes sont les hommes. Et ce matin, ce dont je veux parler, c'est de la crainte. La crainte. La crainte des circonstances, la crainte des hommes, la crainte des mauvaises influences, parce que chacun d'entre nous, nous nous trouvons face à ce genre de choses, à des mauvaises circonstances qui sont là, qui sont plus grandes que nous, qui arrivent brutalement, du jour au lendemain. Parfois, les circonstances, on les voit arriver. Et quand on les voit arriver, on sait comment les affronter. Mais parfois, on ne les voit pas arriver. Ça arrive du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, sans que tu l'aies prévu, sans même que tu l'aies ressenti. Et chacun d'entre nous, nous avons de temps en temps, plus peut-être pour certains, plus pour d'autres, moins pour d'autres, je ne sais pas, mais nous avons ces influences qui viennent sur nous au niveau de nos pensées. Il y a des craintes qui commencent à venir. Et si ça arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Et si ces choses se produisent, qu'est-ce que tu vas devenir? Et c'est des choses bizarres qui tournent, qui sont dans l'atmosphère. Ce sont des pensées diaboliques. Vous savez, quand on parle de mauvaises pensées, ça ne veut pas dire forcément toujours penser du mal de quelqu'un. Ça, c'est bien sûr, quand tu penses du mal de quelqu'un et que tu nourris ce genre de pensée, c'est vraiment mauvais, néfaste, parce que tôt ou tard, ça va t'amener à mal te comporter vis-à-vis de cette personne. Mais toute mauvaise pensée n'est pas forcément penser du mal de quelqu'un. Avoir de la crainte par rapport à une situation, c'est une mauvaise pensée. Amen. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de crainte. Si tu crains quelque chose, c'est que tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Si tu crains quelque chose, c'est que tu n'es pas dans la foi. Et en fait, ces gens sont venus parler à Élie et il a commencé à nourrir des pensées par rapport à ça. Au lieu de se rappeler de comment Dieu était intervenu d'une façon incroyable, des choses qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été vues, que lui-même a vues de ses propres yeux. Je ne sais pas combien de jours se sont passés entre le moment où la pluie est tombée et le moment où Jézabel a fait cette mauvaise promesse, cette déclaration, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il a dû se passer plus de 3 jours. Et quelle a été la réaction de Élie? On va lire le verset 3. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. La panique. Il a paniqué. Il a paniqué. Je vous assure que c'est ni dans la crainte, ni dans la panique que nous pourrons trouver une quelconque solution à nos situations. Ni dans la crainte, ni dans la panique, et encore moins dans la fuite. Amen. Le seul qui doit fuir, c'est le diable. Dans 1 Pierre 5, on va lire ce verset. Dans 1 Pierre 5, première épître de Pierre. Au chapitre 5 et au verset, laissez-moi trouver ça, au verset 8 et 9, il est dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Verset 9: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il nous est dit de résister au diable, et dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, il est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et en fait, il y a 3 choses là. que ça, même dans l'épître de Pierre, vous pourrez lire aussi à la maison du chapitre 6, du verset 6, 1 Pierre 5, 6 au verset 9, comme Jacques chapitre 4, verset 7 et 8. Il y a plusieurs choses, et la première des choses, c'est humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? Ça ne veut pas dire je suis rien, je vaux rien. Parce que si tu étais rien et que tu valais rien, Jésus serait mort pour rien. Nous avons de la valeur à ses yeux. S'humilier, ça veut dire reconnaître nos faiblesses, reconnaître que nous sommes des hommes, reconnaître que si nous avons une position en Christ, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et si nous avons quelque chose, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Que ce soit nos talents naturels, que ce soit les dons spirituels que Dieu fait, tout a été donné par Dieu. C'est pour ça que quand on commence à concevoir de l'orgueil, on commence à se comporter comme le diable. Amen. Et on lui donne un accès. Donc Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pour ça qu'on doit se soumettre à lui et on doit aussi s'humilier devant lui. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est la démarche que nous devons faire. Amen. Nous humilier devant Dieu, de ne pas accepter l'orgueil dans notre vie. Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qui vient toujours d'une manière insidieuse. Tu commences à être content. C'est bien d'être content. C'est bien d'être fier quand Dieu nous utilise. Mais que ça ne soit entre la fierté et l'orgueil, des fois, il n'y a pas loin. Il n'y a pas loin. Si Dieu t'utilise, si Dieu te montre des choses, si tu réussis dans ta vie, n'en sois pas trop fier, mais remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur parce que c'est lui qui te fait grâce. C'est lui qui te bénit. Donc, quand on commence à avoir de la fierté, quand on commence à se sentir très bien, c'est là qu'on commence à être en danger. Amen. Amen. Pour ça que, prends une décision dans ta vie, quoi qu'il arrive, donne toujours la gloire au Seigneur. Jour après jour, dis, Seigneur, je te donne la gloire pour ce que tu as fait de moi. Je te donne la gloire pour ce que tu m'as donné. Ces choses, elles ne viennent pas de moi, elles viennent de toi et je t'en remercie. Et que ce soit continuellement notre cœur. Amen. Pour ce qui concerne Élie, pourquoi est-ce que la crainte est entrée dans son cœur? C'est parce qu'il a perdu de vue ce que Dieu avait fait. Il a perdu de vue, il a oublié et il a pris la fuite. Comme je vous le disais, c'est le diable qui doit prendre la fuite, ce n'est pas nous qui avons à fuir. Amen. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur est plus grand que toute circonstance. Si tu n'arrives pas à le voir, si tu n'arrives pas à le ressentir, à le voir dans ton esprit, prends du temps à t'approcher de Dieu. Prends du temps pour rechercher le Seigneur. Et ces choses, elles vont devenir visibles, elles vont devenir réelles pour toi. J'aimerais qu'on lise ce verset dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la, perfection. Et il y a une chose qui est importante, ce ne sont pas les circonstances, c'est Jésus. Amen. Ce qui est important, c'est Jésus. Ce qui est important, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Ce qui est important, c'est de continuellement regarder à Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il connaît les choses que tu ne connais pas. Dans tes circonstances présentes, il connaît des choses que tu ne connais pas. Et dans l'avenir, il connaît tout parfaitement alors que toi, tu ne connais rien. Et en gardant cette relation, les yeux fixés sur lui, c'est là où tu vas être renouvelé, que tu vas être fortifié dans ta foi, que tu vas avoir ses visions, tu vas avoir sa compréhension et tu vas comprendre les choses qui t'entourent. Parce que aussi quand on vit des choses qu'on ne comprend pas, c'est difficile d'y faire face. Nous n'avons pas la solution. Jésus est la solution. Et quand tu gardes continuellement tes yeux fixés sur lui, tu vois la solution. Tu connais la solution. Tu comprends la solution. Et tu ne seras pas quelqu'un qui, un jour, va faire des exploits avec Dieu et le lendemain, prendre la fuite lamentablement. Je ne suis pas en train de mépriser Élie. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver dans nos vies. Et peut-être que, d'une manière ou d'une autre, on risque de faire pareil ou même pire. Donc on n'est pas là pour juger ou pour critiquer, mais on est là pour tirer des leçons des erreurs des autres. Élie a pris la fuite, il est parti dans le désert et il était tellement déprimé, il était tellement découragé que le Seigneur a dû susciter quelqu'un d'autre à sa place. En fait, quand vous pourrez lire la suite du chapitre 19, cette expérience que Élie va faire dans la présence de Dieu, comment il va monter sur la montagne et que le Seigneur va lui parler dans un murmure doux et léger, le Seigneur va essayer va consoler Élie, va l'encourager, va le fortifier. Et en fait, Élie, la seule chose qu'il voit, c'est que il pense qu'il est resté seul et que on cherche à lui ôter la vie. Et en fait, le Seigneur lui dit, non, tu n'es pas seul, il y a encore 7000 hommes, et qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé, c'est-à-dire ne l'a pas adoré. Et après, le Seigneur va lui dire, écoute, tu vas oindre telle personne pour roi de Syrie, c'est Hazaël, tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël. Et tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. C'était pas une punition. Dieu n'était pas en train de punir Élie parce qu'il avait pris la fuite. Amen. C'est simplement que Dieu voyait que Élie, il n'en pouvait plus. Il n'avait plus la force de continuer parce qu'il s'était laissé emporter et par le découragement et par la dépression. Et pendant 11 ans, Élie va continuer son ministère. Et bon, il va se passer un certain nombre de choses, mais pas tant que ça. Et après ça, c'est Élisée qui va prendre la suite. Et vraiment, que nous ne fassions pas cette erreur d'oublier qui est notre Dieu, de garder continuellement nos yeux fixés sur Jésus, parce que... Le Seigneur a des grandes choses en réserve, il est capable de faire de grandes choses, il est capable d'intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.